Pour nous préparer à la fête du 15 août, nous sommes avec l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chancelier et responsable du service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle de notre diocèse. Hier, nous avons parlé de Marie dans les évangiles et nous avons terminé avec Marie, mère de l'Église, quand elle se trouve donc au pied de la croix et qu'il y a cet échange entre la Vierge Marie et le Christ. Et Saint Jean. Marie, mère de l'Église, c'est une appellation de la Vierge Marie assez récente.
Oui, d'un certain point de vue, puisque le pape Paul VI a déclaré Marie, mère de l'Église, durant le Concile, le 21 novembre 1964. Et il a repris cette question tout à fait à la fin du Concile, le 8 décembre 1965. Donc, père du Concile était un peu réticent, parce que bon, comment ça, Marie, mère de l'Église, en tant que, voilà, d'une communauté, bon, ça posait théologiquement quelques problèmes. Donc, Paul VI a bien précisé que quand il disait mère de l'Église, il disait qu'elle était mère et des fidèles et des pasteurs.
Parlons un peu de la Vierge Marie à travers l'histoire de l'Église et à travers finalement la reconnaissance qu'on lui a donnée, que l'Église lui a donnée au fil des siècles, au fil du temps. Quelle est la première grande définition de la Vierge Marie dans l'histoire de l'Église?
Bon, c'est le Concile d'Éphèse de 431. Mais le Concile d'Éphèse n'a pas idée directement de parler de la Vierge Marie, mais il a idée de parler de son fils face à une hérésie. De dire que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu et l'homme sont intimement liés. Moyennant quoi, on peut dire que Marie est la Théotokos, qu'elle est la mère de Dieu, qu'elle est mère d'une personne où par l'incarnation, par ce qu'on appelle l'union hypostatique, donc Dieu et l'homme sont liés. Donc on vise d'abord le Christ, et si je puis dire, par ricochet, donc on va définir quelle est la mère de Dieu, titre qui était contesté, non pas à cause de Marie, mais à cause du Christ. Et donc, quelques années plus tard, on a fêté il y a quelques jours, le 5 août, dans l'Église, on célèbre, c'est une mémoire facultative, la dédicace de Sainte Marie Majeure à Rome, qui est une église à la gloire de la Vierge. Quelques années plus tard, en 434, le pape Sixte III va construire cette église en l'honneur de la Théotokos, de la Mère de Dieu. Voilà, il va, vous aviez sur l'arc triomphal que le pape Sixte offre au peuple de Dieu cette église, et en Occident, c'est sûrement la première église qui est construite en l'honneur de la Mère de Dieu. Bon, depuis lors, elle a été bien sûr agrandie, enrichie, tout ce qu'on veut, mais voilà.
Donc ça, c'est 431, le Concile d'Éphèse.
Le Concile d'Éphèse.
Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire de l'Église où on va définir le rôle, la mission de la Vierge Marie?
De concile, non. Après Éphèse, bon. Bien sûr, il y a eu quelques autres conciles qui ont, si je puis dire, affiné un peu ce qu'on appelle l'union par composition. Voilà comment ça se passe dans le Christ, Dieu et l'homme. Enfin bon, bien. Ensuite, bon, il y a eu d'autres conciles, bon, sur d'autres questions, comme le concile de Trente face au protestantisme, etc. Bon, mais par exemple à Trente. Il y a d'autres questions qui paraissent plus essentielles. Toutefois, donc il va falloir attendre le 19e siècle, le 19e et la première moitié du 20e siècle, pour qu'il y ait des définitions, mais alors par le pape lui-même, des définitions relevant de l'infaillibilité. Donc, celle de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX le 8 décembre 1854 et celle de l'Assomption de la Vierge par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. On n'est pas dans le cadre, si vous voulez, d'une défense de la foi contre des erreurs. On est plus dans une perspective contemplative du mystère de Marie. Et aussi parce que dans le peuple de Dieu, il y a des demandes à Rome allant dans ce sens.
Alors, il y a une dévotion très populaire à la Vierge Marie, qui est le chapelet.
Oui.
Et ça apparaît quand, le chapelet ?
Alors, le chapelet apparaît au Moyen-Âge, Mons. Le chapelet, avant que Jean-Paul II ne retouche et ne rajoute les mystères lumineux, si vous comptez le nombre de « Je vous salue », il y en a 150. Donc le chapelet, c'est le psautier de la Vierge Marie. Et donc au Moyen-Âge, bon, on va avoir déjà ce genre de choses. Il semblerait que l'objet, on se soit inspiré de ce qu'ont les Arabes, vous savez, pour les musulmans, pour dire les noms de Dieu. Il semblerait que pour l'objet, cela soit. Donc, avec le temps, on va contempler, si je puis dire, dans une lumière mariale, les mystères du Christ. Joyeux, douloureux et glorieux. Bon, quelques auteurs, comme Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, dans ses œuvres, parlent déjà des mystères lumineux. Donc ça veut dire que dans sa tête, à son époque, voilà. Et le pape Jean-Paul II, donc dans les années 2000, si mes souvenirs sont bons, voilà, va vouloir qu'on puisse méditer tout l'évangile. Et donc, on va rajouter ces mystères lumineux qui dans le fond, bien voilà, envisagent le ministère public de Jésus. De sorte que, en disant le rosaire à 15 ou à 20 mystères, vous méditez tout l'évangile.
Parlons un peu aussi de la place de la Vierge Marie chez nos frères protestants. Elle n'a pas du tout la même place que dans l'Église catholique.
Alors, il y a eu quand même des évolutions. Par exemple, chez Luther, il y a un traité de Luther sur le Magnificat, où Luther fait l'éloge de la Vierge. Il semblerait que, dans certaines franges du protestantisme, jusqu'au XIXe siècle, bon, c'était pas un culte à la Vierge Marie comme chez nous, mais enfin, il y avait quelque chose. Au XIXe siècle, les choses se sont raidies, et donc, voilà, les protestants ont été définis comme ceux qui ne croient pas à la Vierge Marie, pour reprendre une expression populaire. Mais, dernièrement, fin des années 80, 90, il y a même dans le protestantisme une réflexion concernant la Vierge Marie, et même d'un point de vue théologique, dans les accords des Dombes, qui réunissent des théologiens catholiques, protestants, orthodoxes, vous avez eu ce thème de la Vierge Marie qui a été étudié en deux petits volumes, d'une part ce qu'on tient ensemble, et d'autre part, dans ce second volume, les questions qui font difficulté.
Les musulmans vénèrent la Vierge Marie ?
La mère de Jésus, c'est pas rien chez les musulmans. J'ai le souvenir, il y a bien des années maintenant, je crois que c'était un aumônier de Gitan qui avait parlé à une dame musulmane, donc de Marie, et cette dame veut dire « Mais moi, je ne suis pas comme Myriam. » Enfin, voilà. Donc voilà, il y a quand même une grande révérence par rapport à la mère de Jésus.
Et puis, il y a toutes les dévotions populaires, tous les pèlerinages dans les différents endroits. Je pense bien sûr à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima. Et puis après, dans tous nos pèlerinages locaux, Notre-Dame d'Arantzazu, Notre-Dame
Ainoa, par exemple.
D'Ainois ou Notre-Dame de Roncevaux. Est-ce que finalement, cette dévotion à la Vierge Marie, des fois, ne supplante pas la dévotion au Christ ?
C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque qui est né aussi, parfois, d'une vision du Christ comme juge. Comme un juge un peu implacable dont la Vierge arrêterait le bras. Bon, ça, c'est un peu... C'est présent au XIXe siècle. Voilà. Donc, Il peut y avoir le fait que Marie, ça soit, enfin, je plaisante un peu, la quatrième personne de la Sainte Trinité, si on peut dire. Bon, d'où, bien sûr, avec le Concile, avec ce très beau texte du pape Paul VI, Marialis Cultus, bon, on a resitué le culte de la Mère de Dieu, voilà, par rapport à son Fils, par rapport à l'Église, par rapport à un tas de choses.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, et on se retrouve demain pour notre dernière partie consacrée, qui sera, elle, consacrée plus à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Merci à vous.